sages can't be found.
I can see clearly now the rain is gone.
Who can take your trash out? Stomp it down for you. Shake the plastic bag and do the twisty thingy too. The garbage man.
Oh, the garbage man can.
The garbage man can, and he does it with a smile and never judges you.
Oh mon Dieu, que Richard s'est dépassé. Michel, salut Michel Pinard.
Salut,
il s'est vraiment dépassé parce que le thème qu'on lui a donné aujourd'hui, c'était pas évident. C'est en lien avec l'histoire de Michel Langevin, cette résidence aux prises avec une montagne de déchets. Écoute, quand on écoute le montage, évidemment, on avait le mot montagne là-dedans. On avait même un groupe qui s'appelle Garbage. Maudit bordel parce que c'était vraiment un bordel. Upside down, c'était tout croche. On avait un message ensuite de « I can see clearly now ». La voix est bonne aujourd'hui pour chanter ça. Et évidemment, on avait « La petite vie » et « Garbage Man » de Homer Simpson.
Et pour la ville de Gatineau, parce que ça fait 4 ans qu'il y a des plaintes et rien qui se passait. Mission impossible.
Ben oui, mission impossible. Alors, on voulait parler de cela, Michel, parce que c'est pas exceptionnel à une seule résidence à Gatineau. Parce qu'il s'agit d'un phénomène qui est répertorié. Je vais utiliser un très grand mot que je ne connaissais pas. Grâce à toi, je le connais maintenant.
Oui.
Alors, le syndrome ou... le syndrome, ça s'appelle le syndrome de silogamie.
Silogomanie.
Alors, S-Y-L-L-O-G-O, manie, M-A-N-I-E.
En un seul mot.
Alors, silogomanie.
Alors, ce diagnostic-là fait partie du DSM-5. Le DSM-5, c'est la bible des diagnostics en psychiatrie et en santé mentale. Alors, c'est reconnu même comme un syndrome officiel.
D'accord.
Cette tendance-là, cette manie, le besoin compulsif d'accumuler des objets, peu importe, pour les gens au cours de leur vie. Okay. Et... pour en avoir déjà eu quelques exemplaires au bureau de gens qui ont eu à faire éventuellement dans leur vie du ménage, parce que ça crée vraiment un mal-être et des problèmes sociaux importants. C'est au point où les gens peuvent pratiquement plus vivre dans leur habitat, dans leur maison, parce que ça crée des problèmes, de la contamination, il y a de la vermine. Mais avant d'en arriver là, Rock, c'est comme... Il y a comme un besoin compulsif d'accumuler comme ça. Ça peut être n'importe quoi, n'importe quel objet, des journaux, des revues. J'ai déjà vu quelqu'un qui accumulait des portes, une passion pour des portes. Alors, des portes, une peinture, et là, le garage, le sous-sol, ça vient que ça déborde. Il y a des gens qui me disaient, tu sais, Michel, j'arrive dans le sous-sol chez nous, j'ai plus d'espace, c'est plein de boîtes, c'est plein d'objets hétéroclites, des choses même ils savent même plus d'où ça vient. Alors là, ça devient effectivement avec le temps très difficile et ça crée aussi dans l'entourage avec les années un isolement. Qui veut aller rencontrer ou visiter quelqu'un qui est aux prises avec un syndrome comme celui-là? C'est pas facile.
D'où ça vient? Est-ce qu'on le sait?
Ben écoute, il y a plusieurs hypothèses. Il y a comme une espèce de des gens qui se... Ils vont se bâtir une espèce d'estime de soi, de confiance, de sécurité intérieur sur des souvenirs d'enfance qu'ils vont garder longtemps. Ça peut partir d'une passion, mais qui va déborder. On a parlé de passion récemment, c'est ça. Il y a comme un besoin aussi d'accumuler dans le but, Rock, très souvent, de laisser à nos survivants un héritage. Alors, c'est des gens qui accordent une valeur importante aux objets qu'ils accumulent au fil des années. Pour eux, ça a une valeur. Alors, des portes ou des peintures, pour eux, ça a une valeur significative. Et c'est comme un cadeau qu'ils vont laisser aux héritiers après leur décès. Alors, c'est comme si la pulsion de garder, de conserver, c'est de faire un cadeau énorme aux gens qui vont leur survivre. Là,
mais je reviens parce que tu dis que c'est peu importe les objets, mais
oui.
Est-ce qu'il y a une différence entre dire... Je suis un maniaque d'encyclopédie.
Oui.
J'en ai. Ou je suis un maniaque de sacs à déchets, là.
Il y a ça aussi, mais il y en a, par contre, qui ne feront plus la différence parce que c'est juste le besoin d'accumuler.
Ah ouais, hein?
La peur de manquer de quelque chose aussi. Des gens qui ont manqué dans leur jeunesse, qui ont vécu de la pauvreté, alors ils disent plus jamais maintenant. Alors, ils vont en avoir 2, 3, 4, 5 exemplaires de tel objet. Et quand c'est des déchets, ben à ce moment-là, ils gardent parce que là aussi, c'est la peur de laisser aller quelque chose qui leur a appartenu. Alors, ils vont faire un sac bien fermé, bien hermétique, mais ils vont l'accumuler. Et là, ça devient une montagne de déchets.
Hmm.
Un peu ce qu'on a vécu cette semaine et ce que Michel Langevin parlait plus tôt ce matin.
OK. Michel, est-ce que... Bon, je vais aller juste un peu à gauche par rapport à ça.
Oui, vas-y.
Si je pense aux collectionneurs.
Oui.
Collectionneurs de cartes de hockey, mettons.
Oui.
Ou de petites cuillères quand on voyage.
Oui, des assiettes.
Bon, OK.
C'est ça, oui.
Est-ce que, dans le fond, c'est une version amoindrie de ce syndrome-là?
On pourrait dire que c'est... Je pense que c'est une version bien gérée qui part aussi d'une passion puis d'un intérêt. Il y a des gens qui ont des belles collections et que non, je pense pas que tout leur environnement, là, leur décor, c'est contrôlé, puis c'est une notion de plaisir dans ça.
OK.
Faut pas charrier.
OK.
Mais ça vient un peu au départ peut-être du même germe là, psychologiquement de dire ben je vais accumuler des choses parce que j'ai un plaisir. Mais évidemment, quand on a le syndrome de sologomanie, ben là, évidemment, Rock, c'est à l'extrême, okay. C'est poussé. Là.
OK.
Mais une collection,
on essaie
non,
de...
c'est correct.
OK, parfait. Ouais. On essaie de gérer ça comment?
Quand on a le syndrome,
ouais.
Évidemment, c'est l'entourage, à un moment donné, qui lève la main puis qui réalise que ça n'a plus de bon sens. Et un des éléments déclencheurs, c'est de faire rendre compte à la personne que dans ces objets, c'est un fait vécu, la personne va dire, je réalise que de ma vie, je ne vais plus jamais ouvrir cette boîte-là ou toucher à tel objet. Quand tu te rends compte que ça ne te sert plus du tout, mais que tu ne verras même pas cet objet-là, c'est accumulé, je ne le vois plus, je ne le vois pas, et que ta qualité de vie à la maison est affectée par ça, c'est là que l'entourage peut venir aider dans ce mouvement-là pour faire réaliser à la personne que c'est peut-être le temps de se délester, là, de laisser aller un peu tranquillement des boîtes ou des objets, mais en disant à la personne qu'on va garder quand même les plus belles pièces ou les plus beaux morceaux. C'est pas d'arriver là-dedans puis de tout vider du jour au lendemain, mais d'y aller dans un processus de faire un constat qu'il y a des choses que tu vas jamais utiliser dans ta vie, que tu reverras même pas, mais dans les objets, dans le ménage qu'on va faire, dans les plus belles pièces ou les choses les plus importantes pour toi, oui, on va les garder. Et on y va comme ça en quelques mois, quelques années pour tranquillement défaire tout ça.
Mais je t'écoute et j'ai l'impression que tu vas aussi me dire, mais ça, commencer à faire du ménage ne réglera pas le problème sous-jacent.
Ben, au niveau de la santé mentale, non, ça c'est sûr et certain. Sûr. Alors, mais par contre, il y a une qualité de vie. La personne devient tellement seule, isolée et dans un lieu insalubre, ben là, ça crée des problèmes. Alors, c'est sûr que là, ça prend de l'aide extérieure et professionnelle.
Oui, hein?
Oui, ben oui.
Wow.
Ben oui.
OK, mais c'est un lien. Je sais qu'on t'a pris sur le... pour le bon Québécois sur le fly.
Oui.
Parce que c'est pas un problème que tu as tous les jours, évidemment, à ton bureau.
Non. Non, mais ça s'est déjà vu. Je l'ai déjà vu.
Oui.
Et c'est fascinant de voir comment les gens, sans s'en rendre compte, accumulent et sont surpris au moment donné de se faire pointer que à telle minute, là, ça déborde, ça n'a plus de sens.
Mm-hmm.
Pour eux, tout est correct au départ. Excuse-moi.
Mais non, c'est ça, exactement. Oui. Est-ce que dans ton expérience, c'est quelque chose qui se règle en thérapie ou ça prend aussi une médication souvent?
Bien, je pense que oui, il faut que tu sois vu en psychiatrie, évalué, avoir le bon diagnostic. Et oui, il y a des médicaments pour aider là, au niveau de la compulsion et aussi de l'aide en thérapie pour comprendre un peu d'où tu arrives avec ça.
Wow.
Et de faire du ménage. Oui, c'est un long processus.
Ouais, hein?
Mais c'est possible de changer.
Mm-hmm.
Oui, oui, oui.
Michel, on est rendu là.
On y va.
Le conseil du psy.
Monsieur Pinard.
Monsieur Charette.
Alors, j'aurais dit ce mot-là que je vais oublier demain, sûrement.
Oui.
Sylogomanie.
Oui.
Comment, quel conseil peux-tu nous donner?
Mais écoute, avant de devenir sylogomane, Simplement, c'est le printemps. Hein, on parle souvent de faire le ménage du printemps. Alors, pourquoi ne pas utiliser là, ce qui se passe de ce temps-ci là, dans l'actualité pour faire notre ménage de printemps, quelque chose de simple? Mais on dit souvent dans la littérature, quand ça fait 2 ans qu'on n'a pas touché à des vêtements ou des boîtes qu'on a accumulées dans la maison, pourquoi ne pas s'en débarrasser et de voyager un peu plus léger et de refaire un peu, éventuellement peut-être de remplacer certains objets ou vêtements. Mais quand ça fait plus de 2 ans que tu n'as pas touché à quelque chose, habituellement, c'est pas là que tu vas le revoir à court et moyen terme. Donc, c'est le temps de faire du ménage.
Ça fait du bien, le ménage au printemps.
Oh!
Hein? Ça fait du bien.
Bien, ceux qui font l'expérience, effectivement, tu as l'impression d'avoir les idées plus claires aussi quand tu fais du ménage. Alors, les choses sont classées.
Ouais.
Et on démarre le printemps et l'été sur le bon pied.
Très bien. Merci beaucoup, Michel.
Merci, Rock.
Merci.
Bonne semaine.
Bonne semaine à toi. Michel Pinard, notre psychologue.